Concert du matin, François Udry.
Bonjour à tous. Ce matin, un autre concert pédagogique, un concert jeune public dans le cadre du cycle Si l'orchestre m'était compté, avec l'orchestre philharmonique de Radio France, un enregistrement réalisé à la salle Pleyel à Paris, c'était le 29 janvier dernier. Et là encore ce matin, je cède les clés et le micro en quelque sorte à Irène Jacob, récitante, comédienne, qui va présenter cette œuvre de Zemlinsky. Et je vous retrouve dans un peu plus d'une heure.
Bonjour, je suis contente aujourd'hui d'être aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par André Boreyko. Pour vous raconter l'histoire de la petite sirène d'Andersen, qui inspira en 1902 le grand compositeur Alexander von Zemlinsky. Pour suivre les personnages, les lieux, les émotions, Zemlinsky a utilisé de grands thèmes que l'on retrouve tout au long de l'œuvre, et en musique, on appelle ça des leitmotifs. Tout d'abord, retenez bien une chose, c'est le violon de l'orchestre, Elisabeth, qui va nous incarner la petite sirène. Le monde de la mer des profondeurs est le domaine des instruments graves de l'orchestre avec un grand thème joué par la clarinette basse et le cor. Le monde des humains, et le prince en particulier, brilleront sous le soleil resplendissant. Tandis que nous entendrons souvent l'évocation du désir qui fait souffrir la petite sirène. Mais n'attendons plus et plongeons au cœur de la musique, au cœur du récit. La petite sirène. Bien loin dans la mer, l'eau est bleue comme les pétales du plus beau bleuet, pure comme le verre le plus transparent, mais elle est très profonde, plus profonde qu'aucune encre ne peut atteindre. À l'endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, et le toit de coquillages qui s'ouvrent et se ferment au gré du courant. Depuis de nombreuses années, le roi de la mer était veuf. Et c'était sa vieille mère qui tenait la maison. C'était une vieille femme avisée, mais fière de sa noblesse. C'est pourquoi elle portait 12 huîtres à sa queue. Tandis que les autres grands personnages n'avaient le droit d'en porter que 6. Elle n'en méritait pas moins de grands éloges, en particulier parce qu'elle aimait beaucoup les petites princesses de la mer, ses petites filles. C'était 6 enfants charmantes, mais la plus jeune était la plus belle de toutes. Elle avait la peau claire et douce comme un pétale de rose, les yeux bleus comme le lac le plus profond. Mais comme ses sœurs, elle n'avait pas de pieds. Son corps se terminait par une queue de poisson. À l'extérieur du château, il y avait un grand jardin avec des arbres d'un rouge feu. Une étrange lueur bleue recouvrait tout. On aurait pu croire qu'on était bien haut dans l'air plutôt qu'au fond de la mer. Par calme plat, on pouvait apercevoir le soleil. La plus jeune sœur n'avait pas de plus grande joie que d'entendre parler du monde d'en haut, où vivent les humains. Il fallait que sa vieille grand-mère lui dise tout ce qu'elle savait sur les bateaux, les villes, les hommes et les animaux. Elle s'émerveillait surtout de ce que sur la terre, les fleurs aient un parfum. Elles n'en ont pas au fond de la mer. De ce que les forêts y soient vertes et de ce que les poissons qu'on voyait entre les branches puissent chanter si haut et si agréablement que c'en était un plaisir. Lorsque vous aurez vos 15 ans, dit la grand-mère, vous aurez la permission de monter à la surface de la mer et de vous asseoir au clair de lune sur des rochers pour voir passer les grands bateaux. Et vous verrez des forêts et des villes. L'année suivante, l'aînée des sœurs devait avoir 15 ans. Mais les autres, eh bien, comme il n'y avait qu'une année de différence entre chaque sœur, la plus jeune d'entre elles devait donc attendre encore 5 ans avant de pouvoir monter du fond de la mer pour voir comment c'était chez nous. Oh, si seulement j'avais 15 ans, disait-elle, je sais que je vais beaucoup aimer le monde d'en haut et les humains qui y bâtissent et y habite. Souvent, elle se tenait la nuit près de la fenêtre ouverte et levait le regard vers la lune et les étoiles. Leur éclat était certes bien pâle, mais au travers de l'eau, elle semblait beaucoup plus grande qu'à nos yeux. Elle eut enfin 15 ans. « Tu échappes maintenant à notre autorité, » dit sa grand-mère. « Viens !» « Et laisse-moi te parer comme tes sœurs. » Et elle posa sur ses cheveux une couronne de lys blanc dont chaque pétale était la moitié d'une perle. Puis la vieille fit attacher à la queue de la princesse 8 grandes huîtres pour faire voir son rang élevé. « Ça fait mal !» dit la petite sirène. « Si on veut être belle, il faut souffrir un peu, » dit la vieille. « Adieu !» dit la petite sirène. Et légère et transparente comme une bulle, elle traversa l'eau. Thank you. Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or. Il y avait là un grand bateau à trois mâts. On jouait de la musique et on chantait. Et à l'approche de la nuit, on alluma 100 lanternes de toutes les couleurs. La petite sirène nagea jusqu'au hublot de la cabine. Et à chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait au travers des vitres transparentes une quantité de personnes élégantes. Mais le plus beau de tous était le jeune prince aux grands yeux noirs. Il ne devait guère avoir plus de 16 ans. On fêtait son anniversaire et c'était la raison de tout ce faste. Oh, que le jeune prince était beau! Et il serrait la main à tout le monde, riait et souriait, tandis que la musique s'élevait dans la nuit exquise.
Thank you.
Un orage terrible venait d'éclater. Les matelots serrèrent les voiles. Le grand bateau se balançait à un rythme effréné sur la mer impétueuse. Il craquait de toutes parts. Chacun tâchait de se tirer d'affaire du mieux qu'il pouvait. La petite sirène vit le jeune prince s'enfoncer dans la mer profonde lorsque le bateau se brisa. Non, il ne fallait pas qu'il meure. C'est pourquoi elle plongea sous l'eau en profondeur et parvint jusqu'à lui. Il n'arrivait presque plus à nager dans la mer déchaînée. Ses bras et ses jambes commençaient à être épuisés. Ses yeux se fermaient. Il serait mort si la petite sirène n'était pas intervenue. Elle tint sa tête au-dessus de l'eau, puis laissa les vagues les entraîner. Elle et lui. Matin, la tempête avait cessé. Quant au bateau, il ne restait plus le moindre copeau. Le soleil sortait de l'eau, rouge et éclatant. On avait l'impression que ça faisait revenir la vie sur les joues du prince, mais ses yeux restaient fermés. La sirène déposa un baiser sur son grand et beau front et releva ses cheveux mouillés. Elle voyait maintenant devant elle la terre ferme. De hautes montagnes bleues, au sommet desquelles brillait la neige blanche, comme si des cygnes avaient été couchés là. En bas, le long de la côte, la mer formait une petite crique. C'est là qu'elle se rendit avec le beau prince et elle le déposa sur le sable, en prenant surtout bien soin de lui surélever la tête pour qu'elle soit exposée à la chaleur du soleil. Un grand nombre de jeunes filles traversa alors le jardin. La petite sirène s'éloigna à la nage et alla se poster derrière de grosses pierres qui émergeaient de l'eau. Elle se couvrit les cheveux et la poitrine avec de l'écume de mer pour que personne ne puisse voir son petit visage et elle resta aux aguets pour voir qui retrouverait le pauvre prince. Une jeune fille ne tarda pas à venir sur les lieux. Elle parut très effrayée, mais cela ne dura qu'un instant, et elle alla chercher ensuite d'autres personnes. Et la sirène vit que le prince reprenait vie et qu'il souriait à tout ce qui l'entourait. Quant à elle, il ne lui adressa pas un sourire. À vrai dire, il ne savait pas qu'elle l'avait sauvé. Elle en ressentit tant de peine qu'elle plongea tristement dans l'eau et retourna au château de son père. Plus d'une fois le soir et le matin, elle remonta à l'endroit où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin et elle les vit cueillir. Elle vit fondre la neige sur les hautes montagnes, mais elle ne vit pas le prince. Et c'est pourquoi elle rentrait chez elle, toujours plus triste. Petite sœur, dirent les autres princesses, et les bras sur les épaules les unes des autres, elles montèrent en formant une longue chaîne à la surface de la mer, jusqu'à l'endroit où elles savaient que se trouvait le château du prince. La petite sirène y revint souvent le soir et la nuit. Elle restait là, assise à regarder le jeune prince, qui croyait être tout seul au clair de lune. Son amour pour les humains augmenta de plus en plus, et elle souhaitait de plus en plus pouvoir monter parmi eux. Il y avait tant de choses qu'elle aurait voulu savoir, c'est pourquoi elle interrogeait sa vieille grand-mère. « Si les humains ne se noient pas, peuvent-ils vivre toujours? Ne meurent-ils pas, comme nous ici au fond de la mer ?»« Si, dit la vieille, ils doivent aussi mourir, et leur existence est même plus courte que la nôtre. » Nous pouvons atteindre 300 ans, puis lorsque nous cessons d'exister ici, nous nous transformons simplement en écume à la surface de l'eau. Les humains, au contraire, ont une âme qui vit toujours, qui vit après que leur corps s'est changé en poussière. Elle s'élève dans l'air limpide jusqu'aux étoiles scintillantes. Il faudra donc que je meure ? Et flotte sous forme d'écume sur la mer, et je n'entendrai plus la musique des vagues. Je ne verrai plus les fleurs ravissantes, ni le soleil rouge. Est-ce que je ne peux rien faire pour acquérir une âme immortelle ? Non, dit la vieille, à moins qu'un humain s'éprenne de toi à un tel point que tu sois pour lui plus que père et mère, qu'il s'attache à toi de toute sa pensée, de tout son amour, et qu'il fasse mettre par le pasteur sa main droite dans la tienne, en promettant de t'être fidèle ici et pour toute l'éternité. Alors, son âme passerait dans ton corps et tu aurais aussi part au bonheur des humains. Mais ça ne pourra jamais se faire. Ce qui justement est ravissant ici dans la mer, ta queue de poisson, ils la trouvent affreuse là-haut, sur la terre. Ils n'ont pas plus de bon sens que ça. Que veux-tu ? Chez eux, pour être beau, il faut avoir deux colonnes peu maniables qu'ils appellent jambes. La petite sirène soupira en regardant tristement sa queue de poisson. Soyons contentes, dit la vieille, sautons et amusons-nous pendant les 300 années de vie qui nous sont données. C'est tout de même un laps de temps assez long. On n'en éprouve que plus de plaisir ensuite. Quand on se repose dans sa tombe. Ce soir, il y a bal à la cour. La petite sirène sortit tout doucement du château de son père et pensa « Il est certainement en train de partir en bateau là-haut, celui que j'aime plus que père et mère, celui qui occupe toutes mes pensées et auquel je voudrais confier le bonheur de ma vie. Je veux risquer tout pour le gagner, lui ainsi qu'une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent dans le château de mon père, je vais aller trouver la sorcière de la mer dont j'ai toujours eu si peur. Elle saura peut-être me conseiller. »
Thank you.
Je sais bien ce que tu veux, dit la sorcière de la mer. C'est bête de ta part, car ça te portera malheur, ma jolie princesse. Tu voudrais te débarrasser de ta queue de poisson afin que le jeune prince puisse tomber amoureux de toi, qu'il t'appartienne et que tu obtiennes aussi une âme immortelle. Je vais te préparer un breuvage que tu emporteras à terre avant le lever du soleil. Tu le boiras et alors ta queue se fendra et en se rétrécissant, elle se transformera en ce que les hommes appellent de jolies jambes. Tu conserveras ta démarche légère et gracieuse. Nulle danseuse ne pourra évoluer aussi légèrement que toi. Mais chaque pas que tu feras te causera autant de douleur que si tu marchais sur un couteau qui ferait couler ton sang. Si tu es prête à endurer toutes ces souffrances, je pourrais t'aider. Je suis prête. Mais souviens-toi, dit la sorcière, qu'une fois changée en être humain, jamais tu ne pourras plus redevenir sirène. Jamais tu ne pourras traverser l'eau pour retourner auprès de tes sœurs dans le château de ton père. Et si tu ne gagnes pas l'amour du prince, s'il se marie avec une autre, Le lendemain matin, ton cœur se brisera et tu ne seras plus que de l'écume sur l'eau. De tous ceux qui sont ici au fond de la mer, c'est toi qui as la voix la plus ravissante. Mais cette voix, tu dois me la donner, dit la sorcière. Je veux ce que tu as de meilleur en échange de mon précieux breuvage, car c'est mon propre sang que je dois y mettre. Et la sorcière coupa la langue de la petite sirène qui était maintenant muette et ne pouvait ni chanter ni parler. Muni du breuvage lumineux qui brillait dans sa main comme une étoile scintillante, la petite sirène traversa rapidement la forêt et les tourbillons mugissants. Elle aperçut le château de son père, mais elle n'osa pas pourtant aller les voir maintenant qu'elle voulait les quitter pour toujours. Il lui semblait que son cœur se brisait de chagrin. Elle envoya du bout des doigts 1000 baisers au château et monta à travers la mer bleue sombre. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'elle vit le château du prince. Il y avait un beau clair de lune. La petite sirène but le breuvage au goût âcre, et ce fut comme si une épée à double tranchant traversait son corps délicat. Elle s'évanouit et resta comme morte. Quand le soleil brilla sur la mer, elle se réveilla et elle sentit une douleur cuisante, mais debout devant elle se tenait le charmant jeune prince. Il la fixait de ses yeux noirs comme jais, si bien qu'elle baissa les siens, et vit que sa queue de poisson avait disparu et qu'elle avait les plus jolies jambes blanches qu'une jeune fille pouvait avoir. Mais elle était entièrement nue, c'est pourquoi elle s'enveloppa dans sa longue chevelure. Le prince lui demanda qui elle était et comment elle était arrivée là. et elle le regarda d'un air doux et pourtant si triste, avec ses yeux bleu foncé, car bien sûr, elle ne pouvait plus parler. Il la prit alors par la main et la conduisit au château. À chaque pas qu'elle faisait, elle avait l'impression de marcher sur des aiguilles pointues et des couteaux aiguisés, comme la sorcière l'en avait averti. Mais elle le supporta volontiers. Et sa main dans celle du prince, elle monta légère comme une bulle. Et il s'étonna avec tous les autres de voir sa démarche gracieuse et souple. On lui mit de précieux vêtements de soie et de mousseline. Elle était la plus belle de tout le château, mais elle était muette. Elle ne pouvait ni chanter ni parler. Oh, si seulement il savait que pour être auprès de lui, j'ai cédé ma voix tout jamais. Alors, la petite sirène éleva ses beaux bras blancs et se dressa sur la pointe des pieds et dansa comme personne ne l'avait encore fait, presque sans frôler le plancher. Tout le monde en fut émerveillé, surtout le prince qui l'appela « sa petite enfant trouvée ». Et elle dansa encore plus, bien qu'à chaque fois que son pied touchait le sol, ce fut comme si elle avait marché sur des couteaux aiguisés. Le prince dit qu'elle resterait toujours avec lui et lui permit de dormir à sa porte sur un coussin de velours. La nuit, quand les autres dormaient, elle descendait le grand escalier de marbre et elle rafraîchissait ses pieds brûlants dans l'eau froide de la mer. Elle pensait alors à ceux qu'elle avait laissés en bas au fond de l'eau. L'affection que le prince avait pour elle grandissait de jour en jour. Il l'aimait comme on peut aimer une enfant bonne et gentille, mais il ne lui venait pas à l'idée d'en faire sa reine. « C'est toi qui m'es la plus chère, lui disait-il, car c'est toi qui as le meilleur cœur de toutes. Tu m'es la plus dévouée et tu ressembles à une jeune fille que j'ai vue un jour, mais que sans doute je ne retrouverai jamais. J'étais sur un bateau qui fit naufrage. Les vagues me poussèrent vers la côte et une jeune fille me trouva sur le rivage et me sauva la vie. C'est elle seule que j'aurais pu aimer dans ce monde. Hélas, il ne sait pas que c'est moi qui lui ai sauvé la vie, pensa la petite sirène. Et voilà que le prince va se marier et prendre la charmante fille du roi voisin, annonçait-on. C'est pour ça qu'il équipe un si superbe bateau. Oui, dit le prince à la petite sirène, il faut que je voie la belle princesse. Mes parents me le demandent, mais je ne peux pas l'aimer. Elle ne ressemble pas à la belle jeune fille qui m'a sauvée. Si je devais un jour choisir une épouse, ce serait plutôt toi, mon enfant. Et il baisa sa bouche rouge, joua avec sa longue chevelure et reposa sa tête sur son cœur et elle se mit à rêver de bonheur humain et d'une âme immortelle. Le lendemain matin, le bateau fit son entrée dans le port de la magnifique ville du roi voisin. La petite sirène était bien curieuse de voir la beauté de la princesse et elle dut reconnaître qu'elle n'avait jamais vu une silhouette aussi gracieuse. « C'est elle, dit le prince, c'est elle qui m'a sauvée. » Et il serra dans ses bras la princesse rougissante. « Oh, c'est trop de bonheur, dit-il à la petite sirène, qui sentit son cœur se briser. » Le matin du jour où les noces devaient avoir lieu, elle devait en effet mourir et se transformer en écume sur la mer.
Thank you.
Les époux s'embarquèrent, les canons tonnèrent, tous les drapeaux flottaient au vent, et au milieu du bateau, on avait dressé une tente précieuse d'or et de pourpre. C'est là que le couple royal devait dormir dans la nuit calme et fraîche. Tout ne fut que joie et gaieté jusque bien après minuit. La petite sirène rit et dansa avec la pensée de la mort dans le cœur. Le prince embrassait sa charmante épouse et ils allèrent se reposer dans la magnifique tente en se tenant par le bras. Devint silencieux sur le bateau. La petite sirène appuya ses bras blancs sur le bastingage et regarda vers l'Orient, du côté de l'aurore. Elle savait que les premiers rayons du soleil la tueraient. Elle vit alors ses sœurs sortir de la mer. Leurs longues et belles chevelures ne flottaient plus au vent, elles avaient été coupées. Nous l'avons donnée à la sorcière pour qu'elle te vienne en aide et que tu ne meures pas cette nuit. Elle nous a donné un couteau. Le voici. Avant le lever du soleil, il faut que tu l'enfonces dans le cœur du prince. Et lorsque son sang encore chaud jaillira sur tes pieds, ils se souderont pour former une queue de poisson et tu redeviendras sirène. Tu pourras venir nous rejoindre dans l'eau et vivre tes 300 ans avant de te transformer en écume morte salée. Dépêche-toi. L'un de vous deux, lui ou toi, doit mourir avant le lever du soleil. Tue le prince et reviens. Dépêche-toi. Vois-tu cette bande rouge dans le ciel? Dans quelques minutes, le soleil va se lever et il te faudra mourir. » Et elles poussèrent un soupir étrangement profond, puis elles disparurent dans les flots. La petite sirène écarta le rideau de la tente et elle vit la charmante mariée qui dormait la tête sur la poitrine du prince. Elle déposa un baiser sur son beau front, regarda le ciel, où les lueurs de l'aurore se faisaient de plus en plus vives, regarda le couteau et fixa de nouveau les yeux sur le prince. Le couteau trembla dans la main de la petite sirène, mais elle le lança alors loin dans les vagues qui se colorèrent de rouge à l'endroit où il tomba. Elle regarda encore une fois le prince, les yeux à demi éteints, et se précipita du bateau dans la mer. Et elle sentit son corps se transformer en écume. Thank you.
Et voilà la très triste histoire de la petite sirène, d'après le conte d'Andersen, la petite sirène morte à cause de ce prince qui n'a pas su la reconnaître. Alexandre Zemlinsky qui écrivit cette fantaisie symphonique en 1902-1903, création à Vienne en 1905. Nous écoutions ici un concert jeune public, concert en famille, dans le cadre de Si l'orchestre m'était compté, avec Irène Jacob, récitante, qui présentait aux enfants et à vous-même ce matin cette petite sirène de Zemlinsky, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Andrei Boreko. Alors cette petite sirène d'Andersen a influencé, a suggéré de la musique à plusieurs compositeurs, et notamment Arthur Honegger, un peu mais sur des poèmes de René Morax. René Morax, c'est le librettiste qui avait déjà écrit en 1921 « Le roi David » pour Arthur Honegger.